Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'ai annoncé aussi l'arrivée, faut pas que je me gourde, de Tata
Roussanou.
Il a tué la baraque et puis Marquitos.
Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, Nicolas Jama.
Et bien jusqu'à minuit avec Coach Courbis, avec Willy Sagnol et Lionel Charbonnet, bien sûr. Lionel, n'oublie pas, il y a un quiz à la fin, ensemble. On jouera l'un contre l'autre.
T'as raison. Ah, t'aimes ça gagner.
Dans 20 minutes. Alors, sauf que j'ai appris qu'en fait, t'avais reçu les thèmes, le thème du quiz, avant le quiz. Donc c'est encore plus fort.
Non, pas tout.
Pas tout.
Non.
Dans 20 minutes, dans demi-heure, comme dirait Vincent Moscato, le match de votre vie. Allez-y sur hashtag RMC Live, le direct studio ou le 32-16. Appelez-nous, racontez-nous le match le plus fort en émotion. Le match que vous retenez dans votre vie, que ce soit une émotion négative ou positive. Et puis je poserai bien sûr à nos consultants la question, hein, quel est leur match? Leur match état de grâce, ce match où ils ont eu le sentiment de marcher sur l'eau. Cette période où ils ont eu le sentiment de dominer leur discipline. On en parlera ensemble, bien sûr, on aura une grosse demi-heure pour évoquer ce thème. Mais d'abord, messieurs, notre thématique histoire du foot du soir. Après les joueurs moyens hier qui ont fait une grande carrière, ce soir, les bad boys. Ces fameux joueurs très durs sur l'homme, les bouchers, comme certains les appellent, les joueurs les plus rugueux de l'histoire. Envoyez-nous des noms, vos équipes types sur le RMC Live ou sur Direct Studio. Il y a déjà beaucoup de propositions, évidemment. Tufting, le Danois, Damien Le Tsi, Roy Keane, Van Bommel, Gattuso, Stefan Effenberg. Ce qui n'empêche qu'on a des joueurs élégants et des joueurs très forts également. On peut être un excellent joueur et un joueur très dur sur l'homme. Lionel, t'as un joueur en tête d'ailleurs ?
Ah oui, moi j'en ai un. J'allais pas te parler de Rino parce que j'en ai un pire que Rino, mais avec lequel j'ai joué, qui était très compliqué à manager. C'est pour ça que je voulais t'en parler. C'était Taribo West.
Ah oui.
Que j'ai eu devant moi et malheureusement, enfin, et très fier de l'avoir eu devant moi.
Hein, t'es méchant, Taribo West ?
Oh putain. Et non seulement il était dur sur l'homme, méchant. C'était pas fait avec méchanceté. C'était fait avec parce que il arrivait justement. Je
maladresse
voulais en parler,
ou c'était vraiment calculé.
Il arrivait pas à anticiper quand il arrivait à Auxerre. Il arrivait avec sa culture nigériane et donc il n'arrivait pas à anticiper ce football européen. Et donc, il était souvent, quand t'anticipes pas, tu subis. Et quand tu subis, vu la masse physique qu'il avait, la vitesse, la force musculaire qu'il avait, je peux te dire que un petit peu en retard, c'était coup franc à chaque fois. Alors, des coups francs qui faisaient mal, parfois, pas souvent, qui faisaient mal, mais surtout une plénitude de coups francs et de pénaltys. Et c'est pour ça que je voulais te parler de Taribo, parce que Taribo, souvent, moi, j'ai l'habitude de dire qu'un bon gardien, il arrête les buts avec la voix. Donc, tu places tes pions. Et en plus, Taribo ne parlait pas français. Donc j'étais obligé de me mettre à l'anglais en lui disant doucement. Je voyais qu'il allait intervenir. Donc j'avais 80% sur la phase défensive. Quand je plaçais mes pions, j'étais focalisé à 80% sur Taribo, sur ce qu'il allait faire pour commencer à le placer pour anticiper.
Tu gérais aussi Taribo en plus de ton but, quoi.
Tout ça, tu gères tous les joueurs. Mais Taribo, c'était 80% de tout le monde. Et à chaque fois, il arrive en retard. Et donc comme c'était en plus à un moment donné. Dans l'évolution du football où il y a eu cette importance des coups de pied arrêtés et notamment les coups francs où on faisait énormément de coups francs à l'entraînement et tout ça parce qu'on s'est aperçu que c'était prépondérant sur le résultat du final. Je peux te dire qu'à chaque fois on prenait des coups francs mais un truc de fou quoi et t'avais beau le dire et d'ailleurs il a fait une très belle carrière, attention, un grand joueur, après il s'est calmé et tout, il a appris, il est allé à l'Inter, mais il a été viré de l'Inter il me semble. Il a été viré de l'Inter parce qu'il est en 99, il a été faire un tacle là-bas sur le côté droit, je sais plus contre qui c'est, j'ai l'image mais j'ai plus l'équipe. Je peux te dire, il a découpé le joueur, il a cassé le fémur.
Donc là, on est dans le cas d'un faux méchant finalement, Lionel.
Oui, c'est, mais tu sais, des vrais méchants
ou.
C'est un mec dur sur l'homme. Dur. T'as des joueurs comme ça qui font mal. Je te promets, ils te touchent un petit peu, ils te font mal. Et ouais. Ça, ce sont des joueurs durs. Alors si peu que voilà, ils sont un petit peu en retard et tout ça. Et je peux te dire que les joueurs, moi j'en ai vu plus d'un attaquant arriver. Voir Taribo arriver sur eux, tout de suite il levait le pied, il s'arrêtait, la course se ralentissait, il se disait oh là là, j'y vais pas. Et t'as besoin aussi de mecs comme ça, de les avoir dans ton équipe, hein. Ça fait du bien, hein, je peux te dire.
Ça fait du bien. Coach, t'es un joueur dur, toi ou pas ?
Non.
Non, pas spécialement ?
Non, on avait une stratégie, c'est-à-dire de mettre une emplâtre en tout début de match.
C'est culturel, ça.
Oui, non, c'était une stratégie pour qu'après l'adversaire soit impressionné tout le restant du match, mais tout le restant du match.
Déjà dans le tunnel, coach.
Il y avait que des menaces verbales, donc. Mais c'est vrai qu'il y avait une intervention virile d'entrée à la. Dans les cinq premières minutes, tu étais sûr de ne pas prendre de carton rouge. À la limite, peut-être
un jaune
grand maximum. Et puis, bon, et après, ben, l'adversaire était quand même diminué parce qu'il était un petit peu.
Un peu échaudé, quoi. Mais bon,
vous partagez ce rôle-là, non?
Oui, ouais, mais il y en avait quand même. Il y avait des adversaires qui se dégonflaient, d'autres non.
Hein. Ah oui, bien sûr, qui est retourné au mastic.
Ça, mais bon, par contre. J'ai connu dans une certaine époque, et notamment dans les années 70, quand je démarrais ma carrière professionnelle, du côté de Lyon, il y avait une paire d'arrières centraux, Baeza, Mihailovic. Alors là, sincèrement, c'était carrément des assassins. C'est-à-dire que là, j'aurais vraiment pas voulu jouer attaquant de pointe avec cette charnière centrale. Et un garçon comme Josip Skoblar ne se dégonflait jamais contre ces deux assassins. C'était injouable. Donc, Domenech qui lui démarrait, mais bon, avec la moustache, machin, il voulait un petit peu être à la mode des deux arrières centraux. De l'autre côté, il y avait un dénommé Lhomme. Là, ces joueurs-là, je m'en rappelle comme si c'était hier, c'était vraiment des joueurs, comment je pourrais dire, inquiétant,
plus qu'intimidant, inquiétant.
Après, si tu veux d'autres, bon, évidemment, dans la période Dimeco, mais Dimeco, c'était avant tout un bon joueur avant de vouloir avoir cette réputation de joueur dur, machin, etc., qui est une réputation qu'il a obligé de continuer à l'être jusqu'à la fin de sa carrière. Mais il y avait à l'époque d'Eric, tu lui poseras la question. Dénommé Moser, ah oui, sincèrement, qui était pour moi plus inquiétant qu'Eric. Moser, dans la préparation d'un match dans la semaine, demandait au staff médical de voir un petit peu si l'attaquant là qui relève de blessure, c'était quoi comme blessure. Ouf. C'était cheville droite, cheville gauche, et genou, ouais, droit, genou gauche.
Là, c'est une question, est-ce que ça fait partie du jeu?
C'était très inquiétant.
On va en parler, évidemment. Il y a beaucoup d'appels déjà au 32-16 pour évoquer les bad boys, les joueurs durs, rugueux sur l'homme dans l'histoire du foot. Tiens, puisqu'il y a une équipe qui symbolise plus que toute autre dans l'histoire du foot, elle est anglaise, on a appelé Julien Laurent. Salut Julien.
Salut Nico, salut à tous.
Notre correspondant, bien sûr, en Angleterre. Tu vas bien, Julien, d'ailleurs?
Très très bien, merci.
Tout va bien, ouais, très, très confinement, bien. Tout va bien. Bon, Julien, évidemment, quand on pense à un joueur, mais une équipe qui incarne plus que toute autre cet aspect-là, j'allais dire du jeu, en tout cas, d'une philosophie du football, c'est le Wimbledon Football Club.
Exactement, tu as raison, cette période où Wimbledon et sa fameuse équipe, hein, le Crazy Gang, qui avait été surnommé comme ça par John Motson, qui était un petit peu le Thierry Roland de la télévision anglaise pour les commentaires de foot après leur victoire en finale de la Coupe d'Angleterre, victoire surprise contre Liverpool en 88. Donc ce fameux Crazy Gang, on va dire entre 1904, début des années 86, c'est quand ils montent en première division, mais ils ont quatre années successives de montée de la quatrième division à la première division. Donc on va dire entre 82 et 92-94, quand les très très méchants commencent à on finit de s'en aller. Mais effectivement, ces années-là, c'était l'année où Wimbledon FC et ce Crazy Gang donc ont causé la terreur sur tous les terrains, à domicile surtout, mais à l'extérieur, ouais, aussi.
Ils se servaient de la raquette Wimbledon, mais pas de la même façon.
Mais c'est un choix.
Exactement.
Voilà, c'est ça. Mais c'est un état d'esprit. C'était quelque chose d'assumé. C'était un choix. C'était une philosophie.
Tout à fait. C'était exactement ça. Non, mais c'est vrai, c'était qu'à un moment, quand ils étaient en quatrième division, ils sont montés en troisième division en 81, ils redescendent en quatrième division, et là, ils disent, pour s'en sortir, il faut un, qu'on joue long, qu'on commence à jouer long, et deux, qu'on soit très agressif et très méchant. Ils ont aussi recruté, donc, pour commencer, pour moi, le plus important, parce qu'effectivement, ils sont très méchants et ils sont très agressifs et tout ça, et c'est pas du très beau football, mais c'était une équipe de revanchards. C'est des joueurs, ils sont allés chercher des joueurs comme Vinnie Jones, comme John Fashanu, que personne ne voulait. Dans les équipes de jeunes, centres de formation, personne n'en voulait. Ils étaient toujours montrés du doigt parce qu'effectivement, ils étaient pas les plus habiles techniquement.
C'est pas arrivé par hasard.
Non, pas du tout. Donc ils ont construit cette équipe de revanchards, des joueurs avec un état d'esprit incroyable. Et cet état d'esprit, finalement, c'était de la camaraderie à la base. Mais une camaraderie, et dans les exemples que je vais vous raconter, qui sont allés chercher très très loin quand même. Par exemple, tous les matins, ils faisaient un footing. Ils allaient faire un footing en forêt, pas loin de... Ils n'avaient pas son entraînement, mais c'était là où ils s'entraînaient. Et celui pour qui c'était l'anniversaire ou celui qu'ils avaient un petit peu envie d'embêter, eh ben, il finissait à poil. À un moment, il lui tombait dessus dans la forêt. Ils enlevaient toutes ses affaires et le mec finissait tout nu. Dans le groupe, mais il est tout nu, il rentrait comme ça pour finir l'entraînement. C'était habituel qu'il cloue par exemple tes chaussures si tu venais d'arriver au club, il clouait tes chaussures au sol ou il mettait de la crème chauffante dans ton caleçon pendant que tu t'entraînais. Comme ça, après la douche, quand tu remettais le caleçon, eh ben forcément tu peux t'imaginer que le zizi et le cul qui brûlait. Voilà, ils avaient ce genre d'initiation comme ça, ce genre de bizutage. Et Vinnie Jones avait l'habitude de dire, si tu peux pas prendre tout ça, eh ben t'es pas chez toi ici, tu peux dégager. Et c'est vrai qu'ils avaient, ils ont créé cet état d'esprit.
Non, mais ils ont créé cet état d'esprit coach. Relevé là-haut.
Oui, mais sauf que le problème, c'est qu'après une fois sur le terrain, ils avaient peur de rien. Ils avaient un degré d'unité assez incroyable. Ça veut dire qu'ils se battaient les uns pour les autres. Il y avait jamais quelqu'un que tu laissais derrière. T'abandonnais personne. C'était une vraie mentalité de guerrier finalement, d'armée.
Et il y avait trois, quatre joueurs qui étaient quand même au-dessus des autres, ou c'était les 10, enfin les 11 pareil?
Non, t'avais deux. Alors, t'avais deux, un, bien sûr, c'était Vinnie Jones. Non, alors, t'avais John Fashanu, ouais, qui était l'attaquant, qui faisait 1m90, grand, noir, costaud, rapide, plutôt bon techniquement, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais surtout, c'était lui, il jouait dos au but beaucoup, il balançait de longs ballons devant, et lui faisait des déviations et tout ça. Et lui, c'était le chef de guerre. Et lui, par exemple, disait toujours, pour gagner le respect, il faut faire peur. Donc il faisait peur. Lui et Vinnie Jones, qui était le milieu de terrain emblématique aussi. Vinnie Jones, le fameux Vinnie Jones qui attrape les couilles de...
Ah ben ça, c'est la photo mythique.
De Paul Gascoigne. La photo mythique, exactement, contre Newcastle. Parce que avant chaque match, il regardait l'équipe adverse, les 11 titulaires, et il disait voilà, c'est lui qu'il faut impressionner, c'est lui qu'il faut dominer tout de suite. Et il rentrait, et au bout de, comme tu disais coach tout à l'heure, au bout de 2 minutes, il lui avait mis un coup de coude dans les côtes ou au niveau du visage, il prenait les cartons jaunes, mais ils en avaient rien à faire, ils savaient très bien qu'ils avaient fait le travail sur le plus talentueux de l'équipe adverse. En l'occurrence, Paul Gascoigne à Newcastle. Et par exemple, dans le tunnel à domicile avant les matchs, Fashanu et Jones faisaient des allers-retours comme ça en dévisageant du regard les 11 adversaires et en disant, en les insultant au mieux que possible, toi je vais te défoncer, toi ta mère c'est une... Voilà, exactement. Et comme ça, ils montaient, ils redescendaient comme ça les 5 minutes avant de sortir sur le terrain dans le tunnel, et ils insultaient tout le monde. C'était assez hallucinant. Et c'est vrai que c'était d'état d'esprit.
Mais ça est arrivé en comme plus, ça. Finalement, Julien, parce qu'ils se montaient 3 fois d'affilée. Ils sont ici en finale de la FA Cup en 88, qui gagnent contre Liverpool en plus, avec un style de jeu hyper rustre, quoi. On balance des ballons et on cogne.
Exactement, il marque sur coup de pied arrêté d'ailleurs, hein. C'est pas une surprise, un but de la tête sur coup de pied arrêté. La veille du match, ils savaient pas trop quoi faire alors ils avaient une grande habitude en fait quand ils arrivaient à l'hôtel les veilles de match à l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils allaient dans la chambre de l'entraîneur Bobby Gould, ils prenaient son lit et ils le jetaient de l'étage où ils étaient, donc 3e étage, ils le jetaient par la fenêtre, 4e étage. S'il y avait une piscine, c'était encore mieux parce qu'ils le jetaient dans la piscine. Et donc Bobby Gould à chaque fois devait demander un autre lit.
Ah, on n'a jamais fait ça aussi,
la veille du match. Non, tu vois, Guillaume, on a fait des coups, mais pas celui-là. Et donc, ils savaient pas trop quoi faire la veille. C'était quand même le match le plus important de leur vie, de leur carrière. Et donc, Bobby Gould leur avait dit, tiens, je vous donne un peu d'argent, allez au pub. Et donc, ils étaient allés au pub, ils avaient retrouvé plein de supporters de Wimbledon. Ils étaient allés au pub jusqu'à pas d'heure la veille du match. Et le lendemain, ils avaient quand même battu la grande équipe de Liverpool. En plus, en arrêtant Dave Besant, avait arrêté un penalty de John Aldridge en finale. Mais c'est vrai que ça avait marché parce que, ils avaient impressionné beaucoup les joueurs de Liverpool. Déjà, ils étaient les gros outsiders. Personne ne croyait en eux. Et je pense que ça leur avait donné encore plus de motivation de se dire, on va vous montrer qu'on est capable de gagner ce genre de match. Ils avaient mis des coups dès les 5 premières minutes un peu à tout le monde, surtout à John Barnes notamment, que Dennis Wise, ils avaient muselé comme jamais. Et c'est vrai que ça avait fonctionné. Après, c'est une équipe, effectivement, tu l'avais dit, long ballon, beaucoup de centres pour Fashanu, qui était donc très bon dans les airs, forcément, et 1m90. Cette intimidation qui marchait.
Mais c'est ça la question, Julien. Je me dis qu'aujourd'hui, ce serait pas possible. Enfin, les arbitres ne réagissaient pas, parce que, on parle de Vinnie Jones, qui a le record du carton jaune le plus tôt dans un match, hein, au bout de 3 secondes.
Le plus rapide, c'est ça.
3 minutes, même pas 3 secondes, je crois. Hein.
Voilà.
Coup d'envoi, c'est ça, ouais. 3, il prend le jaune.
3 minutes, exactement.
3 minutes, ouais.
Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que, les arbitres seraient beaucoup plus faciles et plus impressionnables à l'époque. Et surtout, étaient beaucoup moins disciplinaire qu'aujourd'hui, je pense, effectivement. Donc tu pouvais facilement, c'était à l'ancienne. Tu pouvais mettre des tacles à la gorge, ils prenaient qu'un carton jaune à cette époque-là. Et donc pour eux, c'était parfait. Ça allait très bien dans leur sens. Et à ce niveau-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils auraient fini à 8 après une demi-heure de jeu. Mais à l'époque, ça, c'était encore plus ou moins la culture anglaise aussi. Ça faisait partie du folklore local. Et c'est vrai que notamment à domicile, les arbitres osaient pas trop sortir des cartons rouges. Et Fachanou et ouais, Jones, c'est souvent qu'ils pouvaient impressionner les arbitres.
À l'extérieur aussi, ils faisaient les marioles de la même façon?
Alors à l'extérieur, ils avaient une très grande coutume. Ils avaient un ghetto plaster, tu sais, ces grands trucs de musique là, qu'ils emmenaient partout et ils mettaient ça à fond. Et notamment à Manchester United, à Old Trafford, Sir Alex Ferguson déteste. Mais pour lui, c'était horrible. Il détestait ça et il mettait ça le plus fort possible pour faire chier tout le monde. En fait, c'était incroyable. Partout où ils allaient, c'était comme ça. Alors à domicile, c'était pire. Ils mettaient du sel, par exemple, dans le thé. Ils apportaient du thé aux équipes adverses. Ils mettaient plein de sel dans le thé. Il y avait pas d'eau chaude, enfin tu vois les trucs habituels, ils mettaient du papier toilette partout dans les vestiaires, c'était jamais lavé, ça puait, enfin c'était incroyable. À l'extérieur, ils utilisaient un petit peu d'eau, stratagème, mais c'est vrai que c'était tout dans cette mentalité là.
Willy, ça marcherait pas aujourd'hui un style comme ça, franchement.
Non, ça pourrait pas, non, c'est impossible avec la vidéo, avec.
Ah oui.
Mais tu le vois, mais même les profils des joueurs, c'est plus du tout ça. Il y a plus de sur les terrains, il y a plus de méchanceté. C'est même aujourd'hui, même
c'est
les.
C'est même l'inverse.
voilà, c'est même. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de naïveté qu'avant. Mais je pense que c'est très bien aussi. Parce que du coup, ça laisse la part belle au jeu. Tu vois, il y a moins de le foot est moins haché, il est moins, il y a plus de jeux en continu. Donc, moi, je préfère largement ce qui se passe aujourd'hui que ce qui se passait il y a 30 ou 40 ans.
Voilà, Julien, merci pour cette histoire que tu nous as magnifiquement contée. Wimbledon FC, c'est mal terminé après. Le club n'existe plus. Enfin, si, maintenant, il a changé de nom. Hein.
C'est ça. Il a changé de nom. Il a été dissous d'abord. Ils l'ont relocalisé à Milton Keynes, qui est à 1h30 en voiture de Londres. Et puis les vrais supporters, le noyau dur, ont recréé un Wimbledon FC qui est maintenant en 4e division. Donc il est encore là, le club, mais pas vraiment comme on l'a connu avant. Et puis la victoire de 88 en Coupe d'Angleterre a aussi, parce qu'il y avait quand même des bons joueurs. Denis Wise, il était méchant, mais c'était quand même un très bon joueur. Il a fait du très bon travail à Chelsea après. Donc voilà, les meilleurs joueurs sont quand même partis. Jusqu'en 94-95, ils ont plutôt été bons. Et puis après, la première descente, ils sont plus jamais remontés. Et ça a été beaucoup plus compliqué. Mais il y a un très joli documentaire fait par BT Sport en Angleterre, qui est peut-être disponible sur YouTube, je sais pas, ou en tout cas sur Internet quelque part. Voilà, qui raconte cette histoire. Ils se sont beaucoup anglais sur le côté méchant, en oubliant qu'ils avaient quand même fait des choses un peu plus positives, mais c'est un très beau documentaire quand même.
Dean Jones, qui est devenu acteur après, hein, évidemment, il a joué dans
Un crime
botanique et dans Snatch notamment. Merci Julien.
Exactement.
Excellente
soirée. Merci les gars,
toi.
Bonne fin d'émission.
À très vite dans l'After Match. Tiens, j'accueille au 32-16. On va commencer par Kader. Salut Kader.
Salut tout le monde.
Salut Kader.
Salut Kader.
Alors Kader, si t'as un joueur qui te vient en tête, un joueur bad boy casseur.
Moi j'étais dans mes anciens souvenirs. Bon, j'avais 14 ans je crois. Je me rappelle d'un match l'Espagne-l'Algérie sur un joueur qui s'appelait Goycochea.
Goycochea,
voilà. Il jouait à l'Atlético Bilbao, qui a cassé deux côtes au gardien algérien sur un corner je crois. Je crois il est sorti après. Et n'oublions pas le tacle sur Maradona par derrière. Je sais pas si vous vous rappelez de ça.
J'ai pas
d'ailleurs après il y a eu l'embrouille après Maradona. D'accord. Donc c'est celui-là que j'ai trouvé dans mes anciens souvenirs. Et après bon on a Gattuso.
Ouais.
Gattuso, j'ai pas trop de. J'ai Nainggolan. Nainggolan, son dernier tacle c'était sur Rapinha. Je sais pas si vous vous rappelez Barcelone à Roma.
Oui.
J'ai Ramos.
Mais alors, Gattuso, pour revenir à Gattuso, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Moi, j'adorais ce joueur. C'était un.
Mais
c'était plus un excès d'engagement. C'était un surinvestissement.
Moi, j'ai joué.
Rino, c'est
joué
un
chance,
les gars.
Rino,
moi,
c'est un petit un peu ce que je te disais avec Taribo. Moi, je le connais très bien. C'était mon boy chez les Rangers, Rino. C'est lui qui
a tiré
mes
pompes.
Ah ouais, on est très amis. Et donc Rino, il était pas si méchant que ça. Hein.
C'est ça.
Voilà, il avait.
Non, c'était de l'intensité.
C'est ça.
L'intensité dans
exactement,
les duels.
Exactement. Il avait. C'est ça.
Et moi, j'adorais ce mec parce qu'il séchait des joueurs comme ça dans son intensité, dans ses interventions. Mais à chaque fois, il proposait au mec de le relever. Je me rappelle de lui. Assez classe, Gattuso. Merci.
Ouais, non, mais c'est des mecs. Mais tu sais, on parle des autres et tout. Mais moi, je vais te dire, moi, le premier, ça m'est arrivé de faire des conneries. Et Willy, tu vois, il m'a fait penser tout à l'heure. Il disait, il préférait le football de maintenant par rapport à ce qui se vit, ce qu'on a vécu nous. Je peux te dire que maintenant, tu vois, et coach, tu vas rigoler quand tu vois les chaussures qu'ils ont, les mecs. C'est des chaussettes
c'est des
qu'ils
papier.
Ont.
C'est des feuilles de papier.
En hiver, je peux te dire, un mec qui m'emmerdait sur un corner, je le voyais arriver avec des pompes comme ça, avec ses chaussettes.
Ah ben tiens.
Comme j'avais des coniques,
tout de suite.
Bah, je lui mettais un petit coup de crampon conique comme ça, et puis il partait.
Ah ben tiens, mal. C'est très bien ce que tu racontes parce que Willy m'avait fait une concession donc, comme ça un jour. Vas-y, finis Lionel.
Donc voilà, tu vois, nous aussi, on avait tous nos petits trucs. Willy, il avait les siens. Le coach, je veux même pas les entendre.
Les gars, vous les gardez, ça m'intéresse vachement. On en est parlé avec Willy sur une soirée Europa League la saison dernière sur comment bien défendre sur les coups de pied arrêtés justement. Willy, il avait son petit truc à lui. Tu le gardes pour toi, Willy, on en parle dans un instant. Allez, beaucoup d'appels au 32-16. Patrick, Benita, merci Kader d'avoir appelé au 32-16. On continue notre thème du soir, bien sûr.
Salut, Kader.
Les bad boys du football.
Salut.
Et puis voilà, les petites idées de nos consultants pour intimider un joueur, on va le dire comme ça. L'after LF qui est menu, à tout de suite.
RMC.
L'after foot.
Nicolas Jamain.
Coach Courbis, Lionel Charbonnier, Willy Sagnol. On est ensemble jusqu'à minuit, bien sûr. Nous sommes sur un thème qui cartonne sur les réseaux. Évidemment, beaucoup d'appels au 32-16. Citez-nous les plus grands bad boys du foot. Évidemment, beaucoup évoquent le tacle de Kanto sur Dazakarian. Vous vous rappelez, messieurs?
Ouais.
Évidemment. Et Kanto n'était pas un joueur méchant. Si.
Ah, fallait pas l'emmerder.
Il pétait des boulons.
Mais oui, voilà, c'est ça. C'était un sanguin sur des coups de folie, quoi.
Ah mais bon, c'est quelqu'un qui était, je pense, correct, mais qu'il fallait pas emmerder. Oui,
c'est ça. Il avait sa logique, il avait son. Vraiment, il te mettait les barrières, tu vois, sa ligne de vie, elle était comme ça. Et si tu dérogeais, par contre, tu pouvais pas parler. Et là, tu prenais une sanction tout de suite.
Alors, évidemment, il y en a un chez nous qui est réputé pour ça, mais pas que pour ça. Il a joué à Marseille, il est champion d'Europe. Il est consultant RMC, c'est Eric Dimeco. Tiens, écoutez, on a sorti un extrait d'un tacle de Dimeco et des propos de son président juste après. Écoutez.
Lacer face à Mehdi Pelé, Fournier face à Dimeco.
Oh là là, pour Dimeco.
Oh là là. Ce sera un carton jaune pour Eric Dimeco avec le grand parisien qui s'est levé immédiatement.
Ça, il ne peut pas y avoir de carton beaucoup plus justifié que celui-là. Eric Dimeco qui vraiment pas su se retenir encore sur cette action.
Il n'a pas encore de toute sa carrière blessé un joueur. Ça veut dire qu'en plus, il donne un sentiment comme ça d'être. Alors d'abord là il y a faute parce que franchement, si le pied est pris en même temps, ça peut être très grave. Par conséquent, ce n'est pas des choses à faire. Et en plus de ça, 9 fois sur 10, regardez, vous allez voir, le joueur se relève avec rien. Il fait des tacles glissés comme ça de 20 mètres parfois, ce qui lui amène, regardez, des cartons jaunes et puis prochain coup, un carton rouge. Voilà.
Voilà l'explication de Bernard Tapie. Ouais, 9 fois sur 10, il touche pas le joueur quasiment. Quoi. C'est pas
c'est
grave.
À partir du moment où il blesse pas le joueur,
tout va bien. Ça ne reste pas le rouge. Si le joueur est pas blessé.
On peut dire que sur pas mal de tacles, il a été chanceux quand même. Et surtout le joueur qui a été taclé, qui a été chanceux.
Non, mais c'est Eric, Laurent Fournier, là, PSGOM 92.
Ce qu'il faut savoir d'Eric quand même, c'est que c'est un très bon joueur qui est reconverti au poste d'arrière gauche. Il veut s'imposer parce que c'est pas facile de s'imposer à l'Olympique de Marseille. Donc il apporte ses qualités de footballeur et il rajoute cette brutalité. Après il est prisonnier de sa réputation et ça se passe comme ça toute sa carrière. Donc il valait mieux être de l'autre côté.
Oui, c'est ça, mais t'en as besoin des joueurs comme ça. Hein. C'est
oui.
Ça. Hein. T'es content de les avoir. Tu sais, il te faut des joueurs. Alors, à la limite de la destruction, mais t'as des joueurs qui sont là pour détruire le jeu et d'autres pour construire. Si t'as que des constructeurs, ça va pas. Si trop de constructeurs, ça va pas. Il t'en faut qui détruisent. Bah, Eric, il faisait comme ça. Et encore heureux, tant mieux. Il a jamais blessé de joueur. Et voilà. Par contre, combien d'actions adverses il a interrompu.
ça, c'est quand même un grand coup de chance.
Alors, Willy Sagnol, avant d'accueillir nos auditeurs là, Patrick et Benita, je me souviens, on en avait parlé avec Manu Petit. Je vous avais posé la question, les gars, comment on fait pour, en tout cas, semer le trouble dans une surface de réparation sur coup de pied arrêté. Est-ce que le défenseur est toujours responsable quand on prend un but sur coup de pied arrêté? Toi, tu m'as dit oui, mais il y a des méthodes également que vous voyez pas forcément vous devant la télé. Tu sais quoi,
non,
toi?
Alors moi, il faut remettre dans le contexte. Moi, j'arrive au Bayern, j'ai 22 ans, je crois. J'arrive quand même dans un groupe où tu as Oliver Kahn, tu as Stefan Effenberg, tu as Thorsten Fink, tu as Carsten Janker, tu as Thomas Linke. Donc déjà, rien que les entraînements déjà étaient beaucoup plus agressifs que les matchs. C'est-à-dire que les entraînements, tu mettais les protèges tibia parce que ça taclait. Il fallait même des protèges tibia qui arrivaient jusqu'aux genoux. Et puis, j'étais un peu le petit français. Je jouais sur un autre registre. Et puis un jour, c'est le défenseur Thomas Linke. Je sais plus. Je crois que c'est Thomas Linke qui un jour m'a dit, écoute, à l'entraînement, tiens, viens avec moi, regarde ce qu'on va faire. Et en fait, il me montrait comment faire sur les corners défensifs pour pas que le joueur que tu avais à marquer, puisse prendre le ballon. Et en fait, il m'expliquait, il me dit, la seule façon pour lui de marquer, c'est qu'il faut qu'il saute. Mais s'il peut pas sauter, il peut pas marquer.
C'est ça.
Donc en fait, au moment où le joueur adverse, t'étais pas obligé de le tenir, au moment où il commence à faire son premier pas pour prendre son appui, c'était très simple, tu lui marchais dessus.
Tout simplement.
Essaye de sauter si quelqu'un te marche dessus.
Non, mais impossible.
Tu peux pas sauter, c'est impossible. Puis, donc, tu marches dessus, il peut plus prendre son appui, c'est fini.
Alors après, t'as l'autre solution, si jamais tu ne chopes pas au niveau du pied, juste avant qu'il prenne son élan, tu mets ton bras au-dessus de son épaule.
Mais là, c'est plus visible à Lionel, non?
Non, t'as le droit.
Le pied sur sur l'orteil, ça se voit quasiment pas.
Mais si tu n'y arrives pas le premier coup, t'as la deuxième solution où tu mets le bras par-dessus son épaule avant qu'il saute.
Avant qu'il ait commencé le saut.
Voilà. Sinon, tu passes le bras et là, les arbitres ne voient jamais ça, ils ne sifflent jamais ça. Tu passes le bras par-dessus son épaule, essaie de sauter avec quelqu'un qui te. C'est impossible.
Impossible. On t'empêche ton impulsion.
Et puis surtout, il y a Roland qui a dit une phrase tout à l'heure importante. Maintenant, c'est vrai que ça se fait. J'ai plus trop l'impression que ça se fasse, mais ce qui était important il y a encore quelques années, c'était le premier duel. Le premier duel dans le match, surtout pour les joueurs défensifs, le premier duel, tu ne pouvais, t'avais pas le droit de le perdre. Le premier duel du match, t'avais pas le droit de le perdre. Donc le premier duel, en fait, tu mettais ce qu'il fallait mettre parce que tu mets pas forcément un carton jaune au bout de 20 secondes, mais tu le fais. Alors tu vas pas pour blesser le joueur adverse, mais tu vas pour mettre un peu de. Tu veux déjà. Psychologiquement gagner ton duel avec lui. Voilà, tu veux t'imposer déjà par rapport à lui.
Tu défends ton territoire.
Ça me fait penser, tu vois, la première sortie, pareil, du gardien de but. La même chose. Si tu vas.
Le genou en avant.
Le genou, les machins, t'es devant le mec, même si t'es un peu en retard, tu vas comme un barjot. Et le mec, je peux te dire, il réfléchit à deux fois. Après, tu décides, c'est ou toi, tu prends les coups ou tu les donnes. Moi, j'avais décidé, je préférais les donner, franchement.
Ouais, mais toi,
Lionel. Mais j'ai pas fait de pénalty.
Toi, t'as eu Taribo West, mais t'en as eu un autre. Alors, je sais pas si t'as longtemps joué avec lui, je sais pas, mais.
Basile ?
William Prunier. William Prunier.
Oui, bien sûr, j'ai Willy.
Je voulais
pas en parler parce que le pauvre, il était. En plus, il a été victime de cette caméra, le gros plan là,
avec Klinsmann.
C'était Canal Plus qui faisait
isolé,
voilà. Et c'était la première qui faisait. Et là, c'était le duel Klinsmann premier. Et là, tu voyais tout.
C'était pas un tendre.
Il y a petit prince du parc qui nous donne son équipe type de casseurs entre guillemets. Schumacher, évidemment. Sergio Ramos, oui. Pep, Moser, Dimeco, De Jong, Van Bommel aussi, Willy.
Oui, c'est pas évidemment. Mal.
Roy Keane, très fort aussi.
Van Bommel, c'était pas le. Van Bommel, c'était plus.
C'était vicieux, non?
C'était vicieux, ouais. C'était pas les deux pieds en avant décollés. C'était plus vicieux. De Jong, c'était plus, je pense, maladroit. Notamment son coup qu'il met en finale de Coupe du Monde, je crois. Van Bommel, non, c'était plus. Il était très vicieux. Très vicieux, Marc.
Diego Costa également. Paul Ince, l'international anglais, mais sûr, Denis Wise, qui a joué à Wimbledon. On en parlait. Allez, j'accueille au 32-16 Patrick. Salut, Patrick.
Bonsoir, messieurs.
Merci de ta patience.
Il n'y a pas de problème. J'ai une belle liste, moi, de casseurs et de défenseurs qui étaient très durs. Alors, il y en a un, je ne vous ai pas entendu citer, mais pour moi, c'était le pire bad boy du football ces dernières années, c'était Joey Barton.
Ah ben ouais, on l'avait sous la godasse pour en parler.
Vous l'aviez gardé pour la fin, ouais. Parce que lui, en termes de casser du joueur, que ce soit à l'entraînement, en match...
J'ai eu écho, même une bagarre avec un coéquipier, il avait écrasé un cigare dans l'œil.
Et oui, il avait éclaté la tête.
Tu te bagarres, bon, ok, mais de là à écraser une cigare dans l'œil.
Mais c'est comme le Gallois Bellamy. Comme le Gallois Bellamy, je crois qu'il a chopé un de ses coéquipiers avec un club de golf.
Alors j'en ai d'autres si vous voulez, moi.
Vas-y.
Du français même, j'ai du français. Hein.
Du français en stock, vas-y.
J'ai du Cyril Roll.
Ah bah oui, exactement, bah oui, exactement. Mais lui, le pauvre, il a souffert de cette image-là aussi, parce que à chaque intervention, c'était au moins jaune, voire rouge.
Ouais, j'ai Cyril Roll. Alors, j'ai italien-espagnol, Camacho, vous devez vous rappeler de Camacho. Ouais. Hein, ça casse. Et en Italie, alors il y avait du Chiara Gentile, Materazzi, c'était pas mal aussi, les trois, là. C'était des joueurs qui allaient. Et puis un peu plus vieux, un Français encore, que, à mon avis, Roland se rappelle bien, René Girard. Hein.
Ouais.
Oui, c'était un dur.
C'était pas mal.
René Girard, Guernotrois également à Bordeaux.
Rajouter, plus dur que Domenech.
Tu peux rajouter Guernotrois.
Plus dur que Domenech.
Ouais, Domenech
à l'époque de Domenech, je te dis, Baeza et Mihajlovic sont supérieurs à Domenech, qui évidemment faisait pas de cadeaux non plus, mais Mihajlovic et Baeza, je te dis, c'était vraiment impressionnant.
Merci Patrick.
Eh ben, il n'y a pas de quoi, messieurs. Bonne
merci
soirée.
Pour ta liste. Excellente soirée. Tu reviens dans l'after. Bien sûr, j'accueille Benita au 32-16. Salut Benita.
Bonjour à tous.
Supporter du Barça. Salut Benita.
Bonsoir.
Donc, déjà, il faut savoir que vous m'avez manqué. Ça fait longtemps que je ne vous avais pas appelé. Du coup, voilà, prenez soin de vous. Voilà, coronavirus, prenez soin de vous. Et je voulais dire déjà une chose. Donc oui, Materazzi, je m'en souviens, parce que voilà, bon, je suis jeune, hein, j'ai 24 ans, donc je prends des choses qui sont plus accessibles à mon âge. Materazzi, ouais, je m'en souviens. Celui qui m'a beaucoup saoulé, parce que comme vous le savez, je regarde beaucoup la Liga, Diego Costa et les matchs Barcelone, Atlético Madrid, Diego Costa, oh là là, qu'est-ce qui m'a énervé. Dans un tout autre registre, parce que je suis pro-barcelonais, je dirais que Busquets, d'une certaine manière, il est énervant. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il a une manière de déranger, de saouler, de, je sais pas comment vous expliquer. Et on peut pas vraiment lui en vouloir parce qu'en soi, il a un peu raison, mais en même temps, il a pas trop raison. Donc, Sergio Busquets, vraiment, il fait ce qu'on appelle des fautes intelligentes.
C'est une sorte de harcèlement, quoi, sur la durée, tu vois. Il n'y a pas gros geste brusque ou brutal. C'est...
Et même moi qui suis pour Barcelone, vous le savez, je pense maintenant, il me rend fou. Il me rend fou. Une fois, j'ai dit, Busquets, arrête. Donc, Pep aussi. Pep, ça lui, c'est un sauvage en normes. Hein, voilà. Et bon, Dimeco, j'ai pas spécialement beaucoup connu, mais c'est vrai que j'en entends beaucoup parler. Et c'est vrai qu'apparemment, il a dû faire.
T'as des compiles sur Internet, ouais. T'as des best-of.
Moser, t'as entendu parler, Moser?
Moser, c'était fou. Moser, elle a même une gueule qui faisait peur, pour le coup.
Ah, bah attends. Hein, Moser, tu pouvais le faire tourner dans les films.
Hein. Et juste un dernier truc, si vous me permettez. Je sais pas si c'est un joueur qui cassait beaucoup de personnes, mais celui qui a cassé la jambe de Ben Arfa, je sais pas c'est qui en Angleterre, mais lui, il est doué. Hein. C'était en 2010, c'était un Manchester Newcastle, je sais pas si vous vous en rappelez.
Ça me dit quelque chose.
3 octobre 2010, j'ai pas le nom du gars, mais je sais que c'est. Il lui a cassé la jambe, bah,
c'est,
littéralement.
C'est, ouais. C'est possible.
Et ça m'avait marqué, je sais, puisque.
Tu as la date de l'accident et tu n'as pas le nom du mec.
À mon avis, c'est peut-être Nigel de Jong, hein, qui a fait ça, hein. Non, tu crois pas
probablement, assurément, j'ai la tête,
okay.
Mais j'ai pas le. Voilà. Donc voilà, c'est pour.
Merci Benita pour ta liste. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée à toi. Les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avec du recul, ils ont presque une image sympathique, certains types de joueurs qu'on a cités comme ça, là, des joueurs un peu bad boys.
Ah, mais il y en a un paquet qui sont sympathiques. Mais après, sur le terrain et
en mais non, mais on regarde ça presque avec nostalgie et en se marrant, tu vois, alors que tu avais des mecs vraiment méchants. Enfin.
Ouais,
et après je t'en donne un par exemple que vous devez pas connaître. Borgoni, un arrière central de 1m90 qui jouait à Béziers. Mais tu étais angoissé rien que d'envisager de le rencontrer. Mais en dehors du terrain, mais j'ai jamais vu plus gentil.
Tu vois, je connais pas celui-là. En même temps,
comme Cyril Roll.
Comme Cyril Roll, un mec adorable. Exactement. Voilà pour ce thème, messieurs. On va revenir dans un instant, évidemment, pour le match de votre vie. Je vous attends là-dessus, les gars. Willy, Lionel et Roland, je connais pas. On a préparé l'émission, mais j'ai pas vos réponses par rapport à ça. Je rappelle le principe. Pour vous, joueurs ou entraîneurs,
le match que vous retenez dans votre carrière, celui où vous avez survolé les débats, où rien ne pouvait vous arriver, ou même la période pendant laquelle vous avez dominé votre métier, votre discipline. Et pour vous, Afterien, supporter, fan de foot, si le foot devait s'arrêter maintenant, voilà, s'il n'y avait plus de foot jamais dans l'histoire, quel match vous retenez dans votre rapport au football? Appelez-nous au 32-16, le hashtag RMC Live et l'application Direct Studio. À tout de suite, c'est l'After.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Nicolas Jamain.
Coach Courbis, Lionel Charbonnier, Willy Sagnol. C'est le casting du soir. On est ensemble jusqu'à minuit. Bien sûr, c'est l'After. Ça y est, on y va. Sur ce thème-là qui a déjà suscité beaucoup de réactions. Alors, j'ai dit tout à l'heure, imaginez que le foot n'existe plus à partir de maintenant. Non, vous inquiétez pas, hein, le foot va revenir, bien sûr, et c'est éternel. Ça va revenir, on ne sait pas quand, c'est ça le problème pour l'instant. Pour finir, l'After, justement, vous a demandé de nous raconter, messieurs, le match de votre vie. Ça, c'est pour vous, joueurs ou entraîneurs. Hein, ça peut être un match tournant, un match état de grâce, comme on le dit souvent quand on parle de sport. Et pour vous, Afteriens, supporters, fans de foot, le match que vous retenez depuis que vous suivez le foot, le plus fort en émotion, celui qui vous vient spontanément. Tiens, je vais commencer par Willy, ce thème.
Alors moi je dirais le, mais c'est plus pour la performance collective.
Ah, voilà. D'accord.
Plus pour la performance collective, c'est quand j'étais joueur, c'était le match France-Brésil 2006. Pourquoi? Parce que, alors offensivement, on n'avait pas été très bon ce match-là, parce que je l'ai revu il y a quelques mois de ça en arrière. C'est vrai qu'offensivement, on n'avait pas eu 25 occasions, hein. Mais par contre défensivement, les 10 joueurs de champ plus le gardien. Pour moi, ça a été la seule fois où je me suis dit, après un match, ce match-là, défensivement, on a été parfait. On n'a rien fait.
Le sentiment que rien ne pouvait vous arriver. Enfin, vous pouvez pas
encaisser le but. Parce que, exactement. Parce qu'en fait, quand tu. Il y avait une sorte d'atmosphère, et tu pouvais le voir, même en regardant les yeux de tes partenaires, tu savais que chacun allait tout donner pour l'autre. Et sincèrement, ce match-là, alors défensivement, ça a été, pour moi, je crois que ça a été un des plus beaux matchs de ces 20 dernières années de performance collective. Ça a été, c'était vraiment, c'était très fort. Fort en termes d'émotion.
Ouais. Je vais quand même rappeler l'équipe qui avait en face, que c'est fort ce que tu dis. Offensivement, en tout cas, t'avais Kaka, Juninho, Ronaldinho, Ronaldo. Il y avait Roberto également, Roberto Carlos, Juan, Lucio. Cafu.
Il faut quand même, préciser. Alors même s'il l'a eu, je crois, un an après, Kaka. Mais sur le terrain, t'as quand même trois joueurs offensifs, c'est trois ballons d'or.
Eh oui.
C'est Ronaldinho, c'est Ronaldo, c'est Kaka. Je pense pas que dans l'histoire, il y ait une équipe de France qui est jouée ou
qui
ait
contenu trois ballons d'or comme ça.
Que trois ballons d'or, les trois attaquants, trois ballons d'or.
En plus, Willy, il y avait le numéro 9 costaud. Qu'il avait mis
il le fait rentrer en deuxième mi-temps.
Voilà,
après,
il avait mis
Adriano.
Adriano. Alors que bon, il jouait, il était titulaire. Là, c'était Juninho qui était pas titulaire, qui était rentré, je crois.
Et ça faisait Juninho était titulaire. Voilà. Il avait fait rentrer ce match-là, oui.
Il était pas titulaire le match d'avant.
Donc t'avais ces trois joueurs offensifs. T'as Juninho qui sort, il fait rentrer Robinho.
Sur le papier,
l'équipe était dingue.
Et surtout, faut rajouter, vous avez Cafu qui pendant très longtemps a été le meilleur arrière droit du monde.
Ouais.
Roberto Carlos qui était le meilleur arrière gauche du monde
Lucio
pendant très longtemps.
Lucio était en grande forme à cette époque-là.
Non, mais c'était l'armada brésilienne a été énorme. Et justement, c'est un match où ils ont peut-être allé deux occasions de but.
Mais t'as le sentiment, rappelle-nous, parce que bon, est-ce que pendant ce match-là où vous vous sentez quasiment invincible défensivement et collectivement, est-ce que vous vous regardez? Est-ce qu'il y a des échanges de regards, des choses dont tu te souviens? Justement, tu dis, putain, les gars, là, c'est impressionnant ce qu'on fait là. Je sais pas.
Non, c'était pas sur le fait, en se regardant, on se dit, putain, c'est impressionnant ce qu'on fait. C'était pas ça. Mais c'est plus des regards du style, je suis là, je serai avec toi. Tu vois, t'inquiète pas. Ça n'empêche pas que sur le terrain, tu te pourris comme. Tu t'engueules comme du poisson pourri, comme on dit. Parce que chacun doit faire son travail. Nous, on avait, je pense, quatre bons défenseurs, mais en plus, devant nous, t'avais la paire Vieira-Makelele, qui était pour moi la paire de milieu défensif, la meilleure paire, pour moi, de l'histoire du foot français. T'avais Ribéry qui commençait, mais qui était plein de feu. T'avais Malouda qui est un travailleur inlassable sur le côté. Enfin, tu vois, les deux lignes de quatre, comme on dit toujours dans le foot, on s'était accroché jusqu'au bout et même t'avais un sentiment d'invincibilité. Tu savais que tu pouvais pas perdre, t'allais pas prendre de but, tu le savais.
Non, mais c'est intéressant, ça. C'est déjà arrivé, ça, les gars, ou pas? Sentiment de, d'invincibilité, comme dit Willy, Lionel?
Ouais, 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 ça m'est arrivé. Écoute, moi, j'avais deux matchs, et puis ouais. En fin de compte, c'était soit PSG, soit Marseille, et puis j'ai dit, tiens, je vais rester neutre, parce que sinon, je vais me faire insulter de chaque côté. Et je vais te parler d'un match où, pareil, j'avais ce sentiment d'être invincible, mais à cause de mon entraîneur. Je t'explique, je te remets ça dans le contexte, c'est-à-dire qu'on est aux Rangers, je joue aux Rangers et on fait le match retour, match qualif pour la Champions League contre Parme, qui venait d'être champion d'Europe. Mais pas qualifié pour la Champions League. Donc on va les rencontrer, match retour là-bas. Et ça fait 9 mois que j'ai pas joué, tout simplement parce que je me suis pété les croisés. Et pendant 9 mois, mon entraîneur ne m'a jamais adressé la parole, ne m'a jamais regardé, ne savait même plus comment je m'appelais. Même pas une poignée de main, rien du tout. Je n'existais pas. Et je reviens une semaine, 5 jours avant ce match. Bien. Et là, il me dit, et malheur pour lui, Stéphane Clauss, qu'il avait acheté quand moi je me suis blessé, se blesse. Il a plus de gardien. Et il me dit, Lionel, je commence mon entraînement. Vous imaginez tous, commencer l'entraînement après 9 mois, je peux te dire, les mecs qui tiraient au but, la balle, elle passait, je mettais les mains après, j'avais plus la vitesse d'exécution, j'avais plus rien. Et il me dit, t'es comment? J'ai dit, mais coach, vous avez vu, là, je peux pas jouer. Et il me dit, bah, tu vas jouer. Et j'ai l'impression, j'ai eu le sentiment qu'il voulait me mettre dans ce match qui était vraiment incroyable. Tu vas jouer Parme, champion d'Europe à Parme, pour me décrédibiliser vis-à-vis des supporters, parce que là-bas j'étais excuse-moi le terme, mais j'étais un dieu. Et j'ai dit, c'était enculé. J'ai dit, mais j'avais tout. Je suis passé dans tous les étapes psychologiques. Et là, j'ai dit, mais je vais te montrer. Et je peux te dire, j'ai traité de tous les noms dans ma tête, bien sûr, je suis resté respectueux. Et donc, avant le match, c'était très, très compliqué. J'ai jamais dormi avant le match. Je savais pas où j'allais. J'avais pas de repères. J'avais rien pour jouer ce grand match. Et là, je te parle de Parme. C'était Buffon, Thuram, Cannavaro, Baggio, Crespo et compagnie. C'était vraiment le grand Parme, quoi. Et là, le match commence et j'ai la chance que ce jour-là, je suis canardé de la première seconde jusqu'à la 45e minute.
C'est une chance, toi, et forcément.
Ben ouais, parce que je suis canardé, donc j'avais plus, tu vois, j'avais le problème de rythme, le problème de concentration, le problème de tout ça, et je vois que tous mes joueurs, comme disait Willy, tous les joueurs se resserrent derrière moi, enfin par rapport à moi, et disent mais on va pas te laisser dans la merde, mais et t'inquiète pas, tu vas. Ils étaient au courant de cette histoire, tu vois, et eux ont eu le même sentiment que moi, et rien que pour ça, on était tous contre cet entraîneur là, advocate là, que voilà, si tu vois, si un entraîneur qui m'a montré ce qu'il fallait pas faire en tant que manager, bah lui il l'a fait, c'est bien, j'ai appris des choses, tout ce qu'il fallait pas faire je l'ai appris avec lui. Et donc ce jour là je te promets, j'étais imbattable, état tout ce que grâce. Je faisais, mais j'étais en état de grâce, sauf qu'à la 45e minute, t'imagines, j'avais pas retrouvé mon toute ma masse musculaire au niveau de ma jambe droite, et j'ai mal. Mais Parme, fallait qu'il marque 2 buts. Et il y avait 0-0 à la mi-temps. Et je dis, faites rentrer le second gardien.
Ah ouais?
Eh ouais, parce qu'il voulait m'infiltrer de genou. J'avais trop mal. J'étais bandé. J'avais un genou. Il était énorme. Je pouvais plus jouer. Je lui dis, faites rentrer. Ils sont morts. Les 10 dernières minutes, il les faisait plus. Je dis, ils sont morts. On va se qualifier. Vous inquiétez pas, Antiniemi, il va faire le taf. Et il me dit, non, tu continues, tu joues. Et là, je prends, tout d'un coup, un coup franc. Et là, j'étais pas en état de grâce, je vais dire. Je prends un coup franc dévié. Même ma grand-mère, elle l'aura arrêté. C'est-à-dire que je pars sur ma droite, la frappe, elle est déviée et freinée en même temps. Mais elle est freinée du côté gauche. Et il a fallu que je reparte sur mon appui pied gauche pour retourner à ras le poteau. Mais j'ai mis 3 jours et demi. Et la balle, je l'arrête juste derrière la ligne. Et 1-0. Et à 2-0, on est éliminé. Et là, ça recommence, l'état de siège recommence, les corners, les coups francs, les machins. Et j'avais qu'une idée en tête. J'avais cet entraîneur dans la tête qui faisait que je voulais pas qu'il me lui donner raison, tu vois. Et voilà, ça a continué jusqu'à la 93e minute, 14e minute. Et là, personne ne pouvait marquer. Par contre, je me suis écroulé et je suis passé dans tout. J'ai pleuré. C'est le match, peut-être l'un des plus beaux matchs que j'ai pu faire, mais le plus compliqué psychologiquement. C'était compliqué.
Intéressant.
C'était très dur. Et grâce à un mec, grâce à un con.
T'imagines ça parfois.
Mais ouais, mais voilà. Alors peut-être qu'il a bien coaché. Je sais pas. Il connaissait mon orgueil. Je sais pas. Mais c'était vraiment
un match à ascenseur émotionnel, quoi. Voilà, à toute la palette des émotions.
Très compliqué à gérer.
Mais tu vois, c'est bien, tu me surprends parce que voilà, tu nous racontes une histoire que tu nous as jamais racontée. C'est ton souvenir. C'était quelle année, tu te souviens?
99.
C'était il y a 20 ans, un peu plus.
Bah, 99-2000, peut-être 99-2000. La saison 99-2000, parce qu'en 99, je crois que c'est Parme qui est champion d'Europe, qui bat l'OM.
Qui bat l'OM,
voilà. Nous, on est éliminés en demi-finale.
Oui, Roland.
J'ai failli jouer contre toi.
Très amoindri, malheureusement, pour coach.
Roland, t'as failli jouer contre moi, hein, en finale. Hein. Si je me blesse.
Ça aurait été un plaisir.
Si je me blesse pas. Bah ouais, putain, moi, c'était mon rêve de jouer l'OM. T'imagines la finale. Oui, je me blesse contre Leverkusen en quart de finale.
En plus, t'avais un OM qui était à 40%. Enfin, 40%, qui avait beaucoup d'absents.
Ah non, mais on aurait été
une fois avec. Avec
j'avais aucune peur de l'OM. C'est pour une fois, j'avais pas peur de l'OM.
C'était le souvenir, en tout cas, de Lionel. Tiens, au 32-16, beaucoup d'appels. Antoine est avec nous. Salut, Antoine.
Salut tout le monde. Salut, coach.
Salut, Antoine.
Alors, supporter strasbourgeois.
Ouais, exactement.
Quel est le match de ta vie pour l'instant, en tout cas?
Et le match de ma vie, c'était le 19 mai 2017, c'est pas vieux, hein, mais c'était la finale, on va dire, de Ligue 2. Le dernier match de la saison entre le Racing et Bourg-Perona.
Ouais, à la Méno.
J'étais en virage avec des potes, avec Lucas, avec des mecs comme ça qui écoutent peut-être d'ailleurs. On était en virage, avant le début du match, on était potentiellement leader, on était potentiellement en Ligue 1. Mais on avait, je crois, un ou deux points d'avance sur le deuxième, sur le troisième, sur le quatrième. Donc en fait, tout jouait là, c'est-à-dire que il fallait qu'on gagne, et puis si on gagnait pas et qu'on faisait match nul, ça dépendait des autres matchs. Enfin, tout était incertain. Et on met 1-0, on met 2-0. Potentiellement, c'est bon, on est leader, on est en Ligue 1. Après tout ce qu'on a vécu pendant des années avec le Racing, c'était le retour dans l'élite. Et puis on prend 2-1 et alors là la tension dans le stade, on n'avait pas arrêté pendant tout le match de soutenir les gars, d'être avec eux à fond parce qu'ils avaient fait une saison incroyable et puis c'était génial quoi. Et puis ce coup de sifflet final qui nous fait gagner la Ligue 2, qui nous envoie en Ligue 1. Et puis ensuite, l'ouverture de la pelouse, la fête avec les autres supporters, avec les joueurs.
Et oui.
Et la fête en ville derrière, voilà. C'était pour moi c'est des super émotions. C'était une folie furieuse en tribune, enfin en virage.
Et puis,
pour ce qu'on avait vécu pendant des années avec Strasbourg,
c'était l'aboutissement de plusieurs années
de retourner en élite. Et honnêtement, l'ambiance dans le stade, j'en ai fait d'autres des stades, des très bonnes ambiances, que ce soit la Beaujoire ou le Vélodrome, parce que j'habite à Marseille maintenant. Mais malgré tout, ce petit stade de la Méno, les émotions et l'ambiance de ce soir-là, franchement, c'est rare et c'était vraiment incroyable.
C'est marrant, on sent l'émotion, on entend l'émotion dans ta voix, Antoine. Merci, Antoine.
Mais de rien.
Excellente soirée à toi. Voilà. Ciao. Pour un souvenir strasbourgeois que doit faire vibrer également Gilbert Bribois. Tiens, pas mal de propositions également. On nous parle du match, évidemment, la finale France-Italie de l'Euro 2000 pour son scénario incroyable. On nous parle également notamment d'un Dortmund-Borussia Real Madrid Ligue des Champions demi-finale, le quadruplé de Lewandowski. Voilà, pour un supporter du Borussia certainement. Et j'en viens à coach. Alors coach, avant que tu me parles de ton souvenir, il y a Christophe 83 sur Direct Studio qui nous dit: moi, je me rappelle de l'équipe de Toulon en première division dans les années 80 avec mes Courbis, Casino, Boissière et Vicente et les arrières de l'équipe de Nîmes également aux années 75-80. Voilà. Coach, toi, tu retiens quoi?
Écoute, en tant que je vais pas te reparler du 5-4.
Ah bah, tout le monde en parle sur Twitter ce soir, tu vois. Le 4-0 à la mi-temps, le 5-4.
Mais ça c'était en tant qu'entraîneur, en tant que joueur. Bon, j'ai un souvenir avec un calendrier qui est quand même pas évident, mais j'ai l'habitude pendant toute ma carrière, que ce soit de joueur ou d'entraîneur, d'avoir eu des calendriers particuliers. Donc on est à Monaco, c'est ma première année à Monaco. On reçoit Bastia à la dernière journée de championnat. Le scénario c'est le suivant: nous jouons le titre avec Nantes. Nantes qui reçoit Nice, et si nous faisons match nul contre Bastia et que Nantes gagne, ben ça se joue au goal average. Et les Niçois, nous devons les rencontrer 3 jours après le match contre Bastia. Avec Bastia, on n'est pas en très bon terme, on les bat à Furiani et on les élimine de quart de finale de la Coupe, et ils viennent pour faire un match plus que correct. Et ce match-là, qui est pas évident du tout, on le gagne 2-1 après que Delio, qui était quand même un phénomène, rate un penalty. On est 2-1 jusqu'à la dernière minute. Et normalement, un championnat, il n'y a pas tellement l'émotion parce que ça se joue sur toute une saison. Mais là, c'est un championnat qui se joue sur un match à la dernière journée. On apprend à la mi-temps que du côté de Nantes, il y a une équipe de Nice que nous devons recevoir qui est en tourisme et qui perd, je ne sais pas, ouais. 4-1 à la mi-temps, ils perdent finalement 6-2. Si Bastia égalise à la fin, on perd le titre au goal average. Donc, et quand l'arbitre a sifflé, ben, je te dis sincèrement, je ne me rappelle pas avoir été
aussi heureux,
aussi content.
Ces dernières minutes, c'était fort à l'amour.
Non, non. Pas particulièrement, mais il y avait Johnny Rep qui était emmerdant. Ah
ouais,
quand tu parles de joueurs durs, Orlandouchi, Caz, je peux te dire, vraiment inquiétant. Simplement, quand ils te regardaient, tu te faisais dire, si on se dispute, ça va être compliqué quand même. Donc, il y avait Marchioni, donc il y avait Larios et La Cuesta au milieu. Donc, c'était une équipe. C'est l'équipe qui va en finale de la
Coupe d'Europe,
de la Coupe d'Europe contre les Hollandais. Donc, en match aller-retour sur un Furiani qui est tout simplement
PSG, c'est ça.
Qui est tout simplement injouable. Donc, il est impraticable et malheureusement en match aller-retour. Ils perdent ce qui avait été une saison extraordinaire. Donc c'est vrai que l'adversaire en plus était de valeur avec cette grosse équipe de Bastia. C'est mon meilleur souvenir en tant que joueur. Mais en tant qu'entraîneur, c'est pas un souvenir d'un match, c'est un souvenir d'une série.
Celui-là, tu nous le raconteras, bien sûr. Parce que garde-le, parce qu'on va en refaire, parce qu'on a encore pas mal d'after comme ça. Ta saison à Ajaccio, absolument incroyable en Ligue 2, qui t'amène en Ligue 1.
Ouais, c'est là que tu as la démonstration que tu as, des fois tu es inspiré, des fois tu l'es pas. Ajaccio, dans cette période-là, je crois que j'aurais fait jouer le kiné, il aurait marqué le but de la victoire.
Willy, tu voulais dire?
Non, c'est juste sur les finales, enfin, les matchs finales de fin de saison, en termes émotionnel. Moi, le premier titre que j'ai gagné avec le Bayern, c'est sur le dernier match de championnat, il faut gagner ou faire match nul et on va à Hambourg. Et il y a 0-0 dans le match et à la 91e, donc dans la première minute du
temps additionnel.
Du temps additionnel, bah il y a Hambourg qui marque. Dans le match d'à côté, Schalke qui avait gagné, donc ils ont commencé à tirer le feu d'artifice. Il y avait les supporters sur la pelouse et on égalise à la 94e.
Et donc on
est champion. En 3 minutes, on a fait champion, vice-champion et champion.
Et ben voilà, exactement. Mais ça, c'est souvent ça. Hein. Quand tout se joue sur la dernière seconde. Hein. Bon, on se rappelle du Bayern Manchester United également, qui était complètement fou en finale de Ligue des Champions. Tiens, Abdel, rapidement, nous appelez au 32-16, supporter des Fennec. Salut, Abdel.
Salut, les gars, ça va?
Ouais,
salut,
toi,
Abdel.
Salut, Abdel. Vas-y, ton meilleur souvenir. Alors, j'imagine.
Ouais, rapidement. En fait, moi, c'est la finale de la CAN Algérie-Sénégal, parce qu'en fait, j'étais en place au Caire.
Ah, bah oui.
J'ai fait le déplacement spécialement pour la finale. Et voilà, c'était un truc magique, inoubliable. Et bon, le match en lui-même, il était pas terrible.
Oui, tu sais, oui. J'allais te dire, la CAN est extraordinaire. Le dernier match. En plus, bon, les Sénégalais, ils ont quand même Koulibaly qui est pas là. Le but, il est bizarre, mais sur l'ensemble de la CAN, ce que fait l'Algérie, c'est extraordinaire.
C'est exactement. Et pour l'anecdote, en fait, c'est le but, nous, on le voit pas, parce qu'en fait, dans le début du match, on est tellement dans l'ambiance, en train de gueuler, etc., et qu'on voit pas le but, en fait. Et on voit Bounedjah en train de courir comme un malade, et le banc sauter. Et là, on se dit, attends, il se passe quelque chose, c'est pas possible.
Après une minute 20 seulement, Abdel. Hein, 79e seconde.
Exactement. Et on voit sur l'écran Algérie 1, etc. On comprend rien du tout. Et là, l'euphorie totale. C'était franchement un truc de dingue, émotion de malade. Après le stress, parce que voilà, les Sénégalais, ils ont poussé un peu quand même. Et on voyait qu'il voulait, voilà, qu'il voulait se venger du match des poules.
Ouais. Quand moi, des fois, on se pose la question sur l'importance d'un entraîneur ou d'un sélectionneur. Ce que fait Belmadi au niveau de l'ambiance de cette équipe et de ce groupe pour cette CAN, c'est tout simplement époustouflant.
La deuxième CAN de l'Algérie après celle de 90, 29 ans après. Merci Abdel. Excellente soirée à toi. Merci messieurs.
Salut Adèle.
Lionel.
Salut
à tous. Je vous dis, monsieur Régalé. Salut les amis. J'aime bonne bien vous soirée. Écouter parler du passé et de vos émotions. Toujours un plaisir. Merci, à très vite les gars. L'after revient demain, bien sûr, avec Gilbert Bribois, Daniel Riolo, Pierre Ducrot, notamment au casting. Excellente soirée à tous. Vous écoutez RMC.
RMC. L'after foot.